Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec
Rudy Rastatt, directeur du site Conspiracy Watch.
Et Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques.
Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info.
Qui a commandité l'attentat de l'avion transportant le président rwandais Juvénal Habyarimana? Qu'est-il arrivé au vol MH17 qui s'est crashé en Ukraine en 2014? Depuis des années, les crashs, les disparitions d'avions fascinent les théoriciens du complot. Dans cet épisode, nous passons en revue la façon dont les complotistes réécrivent l'histoire, des origines du génocide des Tutsis au Rwanda à la disparition inexpliquée du vol 370 de la Malaysia Airlines il y a tout juste 10 ans. Les catastrophes aériennes au cœur des récits complotistes, c'est le 65e épisode de Complorama.
En Afrique, deux chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui, on ne sait pas encore. Les trois membres d'équipage français sont morts eux aussi. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali, la capitale du Rwanda.
Bonjour Rudy.
Bonjour Pauline.
Bonjour Tristan.
Bonjour à tous.
Vous venez d'entendre une archive INA du journal de France 2 datant du 7 avril 1994. La veille, l'avion qui transportait notamment le président rwandais Juvénal Habyarimana était abattu par deux missiles. C'est le début du génocide de 1994 dont on commémore ce mois-ci le 30e anniversaire. Qui sont les coupables ? Pour les partisans de la théorie du complot, cet attentat a été commandité par les forces Tutsis. Rudy, tu nous expliques ?
Oui, c'est la théorie des génocidaires. Il faut bien insister sur ce point. C'est leur théorie parce qu'elle leur permet de se disculper et de faire porter le chapeau du déclenchement du génocide au FPR, c'est-à-dire aux rebelles Tutsis. Et donc de suggérer d'une certaine manière que les Tutsis sont leurs propres bourreaux. Il faut dire quelques éléments de contexte tout de même. On est en 1994, les Hutus sont au pouvoir au Rwanda, ils sont majoritaires dans le pays. Habyarimana, le président, est au pouvoir depuis les années 70. Et les rebelles du FPR, de Paul Kagame, sont dans le nord du pays. En août 93, donc quelques mois avant l'attentat contre l'avion présidentiel, ça a été la signature des accords d'Arusha qui prévoit un partage du pouvoir entre Tutsis et Hutus. Mais les extrémistes Hutus qui entourent le président Habyarimana n'en veulent pas de cet accord. Et puis, dans les médias fidèles au pouvoir, il y a des incitations quotidiennes à la violence contre les Tutsis. Leur thèse, c'est donc que c'est le FPR de Paul Kagame qui a abattu l'avion présidentiel. Elle va être reprise, cette thèse, notamment par des journalistes, des intellectuels qui vont chercher à disculper le rôle trouble de la France en soutien au pouvoir Hutu à l'époque. On a par exemple Pierre Péan qui, dans Noir Fureur, Blanc Menteur, en 2005, écrit que dans la phase ultime de sa stratégie de conquête du pouvoir, Kagame, c'est-à-dire les Tutsis, a planifié l'attentat, donc planifié aussi sa conséquence directe, le génocide des Tutsis perpétré en représailles.
Discours révisionniste.
C'est un discours révisionniste qui pose problème parce que selon le rapport d'expertise balistique qui avait été remis en janvier 2012 aux deux juges antiterroristes Marc Trévidic et Nathalie Pou, les tirs venaient d'une zone contrôlée par l'armée régulière, c'est-à-dire l'armée fidèle au pouvoir, au régime d'Habyarimana, et les positions du FPR, elles sont à des dizaines de kilomètres de là. Donc aujourd'hui, il suffit de se référer au rapport de Vincent Duclerc sur le génocide des Tutsis du Rwanda. On n'a pas de preuve définitive d'où venait le tir, de ce qui s'est réellement passé. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on ne peut pas être assertif, comme le sont les défenseurs de la thèse sur laquelle le FPR est derrière tout cela. C'est même une thèse qui est rejetée par beaucoup d'analystes, beaucoup de spécialistes, y compris les journalistes spécialistes du sujet. Et puis, il faut bien avoir en tête que, même si ce n'est pas l'attentat qui déclenche le génocide, il ne tombe pas du ciel, le génocide il est préparé pendant des années, en réalité, opérationnellement, pendant des mois avant. C'est quand même l'élément déclencheur. C'est ça qui fait que, dans les heures qui suivent, moins de 24 heures plus tard, le génocide des Tutsis au Rwanda commence et va durer pendant une centaine de jours.
Quand on pense aux attentats dans le domaine de l'aviation, on pense aussi au crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Donc ce vol relié Amsterdam à Kuala Lumpur, c'était le 17 juillet 2014, lorsqu'il a été touché par un missile russe au-dessus de la partie de l'est de l'Ukraine aux mains des rebelles pro-russes. Au total, 298 personnes à bord meurent dans le crash. Quelles sont les théories conspirent autour de ce crash, Tristan ?
Il y en a de multiples. Il y en a vraiment énormément qui ont circulé en ligne et qui ont été poussés d'ailleurs très très tôt par la propagande russe. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais enfin en gros, on va accuser évidemment l'Ukraine d'être à l'origine de ce drame. On va accuser pourquoi pas les États-Unis. D'autres vont considérer que c'était effectivement un missile ukrainien ou qu'il y avait peut-être une bombe à mort ou que ce serait éventuellement un avion de chasse ukrainien qui aurait abattu le MH17. Bref, il y a de multiples théories qui viennent s'agréger, qui ont été poussées. Évidemment, par la propagande russe, et c'est une véritable stratégie de la part de la Russie, et qui est un grand classique. Encore une fois, on l'a souvent évoqué ici à Complorama, elle va essayer, la Russie, de multiplier les récits pour susciter le doute et le trouble dans la lecture qu'on pourrait avoir de ce moment. Chose peut-être notable, c'est que on avait par exemple des journalistes néerlandais qui, en 2019, avaient analysé les millions de tweets, et notamment publiés par l'IRA, hein, durant cette séquence. L'IRA, c'est l'Internet Research Agency, qui était l'usine à trolls basée à Saint-Pétersbourg et dirigée par Evgeny Prigogine, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et qui avait estimé qu'en trois jours après ce drame, l'IRA avait publié quasiment plus de 111 000 tweets, évidemment poussant toutes ces différents narratifs. Donc on voit bien qu'il y a un vrai travail sur l'opinion publique, qui a d'ailleurs eu un impact. Le Moscow Times, il y a quelques années, avait fait un travail pour essayer de voir un peu l'impact de ce drame dans l'opinion publique russe. Il avait constaté qu'une partie de l'opinion russe doutait du fait que la Russie ait pu être responsable de ce drame du MH17. Sans parler de Donald Trump qui, en 2015, un an après ce drame, avant même d'être élu, avait exprimé publiquement son doute sur le fait que la Russie puisse être à l'origine du MH17.
Oui, cette opération d'intoxication, de foisonnement d'hypothèses comme ça pour créer là encore un écran de fumée, elle a eu ses relais. Parmi ses relais, alors tu viens de citer Trump, mais il y a un géopolitologue qui a été député européen Front National, Aymeric Choprade, qui sur le moment explique que le drame du MH17 en Ukraine ne profite pas à la Russie, mais bien au gouvernement de Kiev et de Washington, et il nous dit qu'à l'évidence, le camp ukraino-américain avait un réel intérêt à abattre cet appareil. Donc en fait, il n'y a pas de preuve de ce qu'il dit, mais son seul argument, c'est le fameux « à qui profite le crime », ce qui est assez habituel dans ce genre de cas. Juste, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2015, le bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité, qui avait été chargé de l'enquête, a publié un rapport dans lequel on lit que le MH17 a été abattu par un missile solaire Buk de fabrication russe et tiré depuis la zone des combats entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes. Ces conclusions sont reprises par l'enquête internationale et elles montrent que le missile provenait d'une brigade anti-aérienne de l'armée russe et qu'elle a été tirée depuis une zone située en Ukraine mais contrôlée par les séparatistes pro-russes. Cette version-là, elle est corroborée par tous les spécialistes de renseignements d'origine source ouverte, d'OSINT, et surtout, on a quand même un document accablant, c'est que dans les minutes qui suivent le tir, on a un colonel séparatiste, Igor Strelkov, qui est un ancien officier des services russes, qui se vante sur les réseaux sociaux d'avoir abattu un avion militaire ennemi. Apparemment, il était persuadé d'avoir abattu un Antonov de l'armée de l'air ukrainienne. Et vraisemblablement, c'était en fait le fameux vol MH17. Donc, les preuves qu'il s'agit d'un tir russe, pro-russe en tout cas, sont assez importantes. Les preuves du contraire, elles n'existent pas.
Et pendant toutes ces années, Moscou n'a cessé de récuser toute responsabilité dans l'affaire. Rudy, ce crash du MH17 lui te rappelle celui du vol 007 de la Korean Airlines.
Oui, le vol 07 de la Korean Airlines en 1983, donc il y a plus de 40 ans maintenant. Là aussi, une bavure. Même scénario que pour le MH17. On a 269 personnes à bord qui meurent. C'est un vol aérien commercial. Mais c'est un vol qui est pris, qui s'est perdu en fait dans l'espace aérien soviétique et qui est pris par les soviétiques pour une intrusion étrangère, ennemie, et qui est abattu. Là aussi, on a des preuves assez accablantes de la responsabilité soviétique. Mais à l'époque, de la même manière, campagne de désinformation pour disculper le camp soviétique et pour dire non, tout ça c'est une supercherie organisée par la CIA, par l'Ouest, l'Occident, etc.
Dans cette première partie d'épisode, vous l'aurez compris, on traite des bavures et des attentats. Évidemment, on ne peut pas ne pas mentionner l'attentat du 11 septembre 2001. Fin mars, Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, partageait sur X un documentaire dans un tweet. En voici un extrait.
Le 11 septembre n'était en réalité qu'un film à effets spéciaux produit par la CIA. Les chercheurs chevronnés sont maintenant assez surpris de voir que ces prétendus actes terroristes sont devenus flagrants et bâclés. Toutes les attaques terroristes sont fausses. Ce sont des leurres militaires pratiquées par les riches sur les pauvres dans le cadre de la guerre de classe en cours. Et l'arme la plus importante dont ils disposent dans cette guerre de classe, ce sont les présentateurs de télévision.
Voilà, un documentaire totalement conspicu qui affirme notamment que tous les attentats sont des manipulations ou des canulars. Alors on ne va pas revenir sur les théories du complot autour du 11 septembre, on en a déjà consacré un épisode dans Complorama, mais c'est un incontournable, Tristan.
Oui, on sait la place évidemment que les attentats du 11 septembre ont dans l'histoire du complotisme contemporain. C'est un véritable épisode séminal, si on veut, et qui a une permanence absolument folle et vertigineuse. C'est surtout ça qui est absolument saisissant. Et le fait que aujourd'hui, récemment, le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, sur Twitter ou sur X aujourd'hui, et ses 6 millions d'abonnés, il a 6 millions d'abonnés, pousse encore aujourd'hui, en 2024, des théories complotistes autour du 11 septembre, c'est dire la place centrale de ce drame dans l'imaginaire complotiste aujourd'hui. Donc on n'en est pas sorti de cette séquence 11 septembre, on y est encore aujourd'hui et on a des figures de la complosphère internationale qui s'en font largement encore le relais.
Oui, il faut rappeler la fameuse thèse de Thierry Messant, une des premières thèses complotistes articulée, argumentée en tout cas, qui apparaît dès la fin 2001 en réalité, et dans un livre en mars 2002, il nous dit qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone quand même. On a beau avoir retrouvé les ADN des passagers en Pentagone, il y a des preuves matérielles évidentes, etc. Il nous dit que non, l'avion aurait été détourné, ou en tout cas c'est un missile ou une explosion qui aurait endommagé le Pentagone. Et puis il y a une autre thèse, beaucoup plus confidentielle, mais tout de même, qui tourne sur certains sites complotistes, y compris francophones, c'est la « no plane theory ». Qu'est-ce que c'est que la « no plane theory » ? C'est l'idée qu'en fait, on croit tous avoir vu des avions percuter les tours du World Trade Center. Eh bien non, en réalité, tout ça était des hologrammes, était fait par hologrammes, et que en fait, ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas existé. Alors on a envie de répondre, mais alors, comment les tours sont-elles tombées ? Eh bien, on va nous dire, non, elles ont été dynamitées. Et en fait, les passagers des avions se sont volatilisés, on ne sait pas où ils sont, les vols auraient été détournés. Donc ça peut aller jusque-là, le complotisme.
Et pour terminer cette séquence, on peut mentionner la mort de l'oligarque Yevgeny Prigogine, l'ancien patron de Wagner. Son avion privé s'est écrasé le 23 août dernier au nord de Moscou.
Oui, alors c'est une affaire intéressante parce que là, on a les complotistes un peu à front renversé. Il y a un faisceau d'indices assez solide qui pointe une responsabilité probable du Kremlin, c'est-à-dire une élimination ordonnée par Vladimir Poutine lui-même en raison de la mutinerie de Prigogine quelques semaines plus tôt. Et étrangement, cette thèse-là n'est pas spécialement explorée ou relayée par la complosphère, ce qui éclaire, je trouve, une nouvelle fois, l'extrême sélectivité des complotistes lorsqu'ils ont un modèle qui ne rentre pas dans ce qu'ils ont envie de croire.
C'est sans doute un jour tragique pour tous les Polonais et pour la Pologne.
L'avion est entré en collision avec un arbre et a dévié de son axe pour rejoindre une basse altitude. C'est ce qu'a conclu l'enquête.
Ce message a été reçu par les membres du parti au pouvoir, immédiatement après le crash.
Tu crois vraiment à ces absurdités ? Est-ce qu'ils ont vraiment réalisé les analyses ADN ? Est-ce qu'ils ont analysé les boîtes noires, l'épave de l'avion ? Ça ne t'intéresse pas que le cercueil qu'ils ont ramené était déjà scellé.
Extrait de la bande-annonce du film Smolensk, réalisé par Anthony Kroos et sorti en 2016. Extrait qui ouvre notre séquence sur les accidents aériens. Ce film, Smolensk, est sorti 6 ans après l'accident d'avion du 10 avril 2010 qui a coûté la vie au président polonais Lech Kaczynski et à son épouse ainsi qu'aux 94 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord. Le film est une fiction, il raconte l'histoire d'une journaliste qui s'intéresse aux détails troubles entourant l'enquête officielle pour découvrir la vérité. Je cite le synopsis du film. Car il existe, Rudy, une version conspirationniste de ce crash de Smolensk.
Oui, qui est apparue immédiatement. Il faut rappeler le contexte. Là aussi, le président polonais se rendait à Smolensk pour aller commémorer le massacre de Katyn. Qu'est-ce que c'est le massacre de Katyn? C'est entre avril et mai 1940, le massacre de plus de 20 000 personnes, l'élite en fait de la nation polonaise, après l'invasion de la Pologne d'un côté par la Wehrmacht et deux semaines après par l'armée rouge. En fait, on décapite l'élite polonaise. Donc c'est l'un des plus grands traumatismes nationaux pour les Polonais. Et là, on a un président polonais qui se rend à Katyn pour commémorer ça avec les Russes, et son avion explose, et d'ailleurs il y a plusieurs officiels à bord avec lui. Donc immédiatement, il y a dans le camp des nationalistes polonais l'idée que ce sont les Russes de nouveau, et que le crash de Smolensk, c'est un nouveau Katyn pour affaiblir la Pologne, etc. En fait, cette thèse, elle ne repose sur rien, sur aucun élément de preuve matérielle fort, mais elle s'inscrit bien dans le narratif d'une nation polonaise martyrisée, hier par les Soviétiques, aujourd'hui par les Russes. Et encore une fois, il est très facile, à partir d'un accident et d'un événement aussi tragique que celui-là, de fabriquer des théories du complot.
Pour poursuivre sur notre séquence sur les accidents d'avion, il y en a un auquel on pense forcément, c'est celui de John Fitzgerald Kennedy Jr., alias John John. John John est mort le 16 juillet 1999 dans un accident d'avion au large de Martha's Vineyard dans le Massachusetts. Et près de 25 ans plus tard, des théories font surface. Aux États-Unis, chaque année, des Américains, des pro-Trump, adeptes de la théorie du complot QAnon, affirment que l'héritier de JFK n'est pas mort.
On se dirige vers une voie qui s'annonce très très différente pour les deux ou trois prochaines années. Je suis sûr que d'ici le 23 juillet de cette année, vous allez comprendre ce qui se passe vraiment et où on en est. Ce jour marquera l'histoire, car John Fitzgerald Kennedy Jr. et Donald Trump reviendront à la tête des États-Unis d'Amérique.
Voilà, vous venez d'entendre l'extrait d'une vidéo d'un rassemblement de militants pro-Trump. C'était en juillet 2023. On l'entend, Tristan, ils sont persuadés que John John va revenir.
Oui, c'est assez déroutant. Hein. On en avait déjà parlé ici dans Complorama. C'est effectivement une branche de la mouvance QAnon, notamment à Dallas, hein, qui ont manifesté pendant de nombreux mois, de 2021 à 2023, et qui imagine effectivement que JFK Jr. n'est pas mort. Hein. Et donc, que par conséquent, le crash dont il a été victime en 1999 n'est pas une réalité. Et qu'en fait, il y a eu une simulation de sa mort. Et ce qui expliquerait aujourd'hui qu'il est encore en vie et qu'il va sauver les États-Unis et le monde avec Trump.
Comme Elvis.
Oui, comme un peu comme Elvis. Et ce qui est assez déroutant, encore une fois, avec cette séquence, c'est que en 1999, dès le crash hein, de l'avion de JFK Jr., eh bien, on a déjà de nombreuses théories complotistes qui font surface. Hein. Et de façon plus classique, là, on va essayer d'accuser, par exemple, les services secrets américains. On va essayer de faire un lien avec l'assassinat de JFK en disant qu'il y a quand même un deep state qui veut du mal à la famille. Mais ce qui est fou, c'est que en 2023, quasiment, hein, des années après, on a la complosphère la plus radicale américaine qui va essayer de redonner vie aux théories complotistes de l'époque en lui donnant un verdict qui est assez radical et qui serait que il n'est pas mort et il est en fait le chevalier qui va se battre contre ces élites mondiales qui nous veulent du mal aujourd'hui.
Attentats, accidents, disparitions, les catastrophes aériennes, au cœur des récits complotistes, c'est le 65e épisode de Complorama avec Tristan Mendes-France et Rudy Rechtat.
La disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines reste un mystère jusqu'à ce jour. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé lors de ce vol apparemment banal. Le pilote a communiqué avec la tour de contrôle et ses derniers mots étaient « Bonne nuit, Malaisie ». Peu après s'être connecté au Japon, le vol MH370 a soudainement disparu des radars, ce qui suggère qu'il aurait perdu toute puissance ou qu'il a été intentionnellement éteint. Cependant, si l'avion avait perdu de l'énergie, il n'aurait pas pu parcourir une si grande distance depuis son point de départ. Certains spéculent sur l'implication d'extraterrestres, tandis que d'autres pensent à une dissimulation.
Extrait d'une vidéo TikTok générée par intelligence artificielle, vous l'avez entendu, et qui revient sur une théorie du complot sur la disparition du vol 370 de la Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur en Malaisie et Pékin en Chine le 8 mars 2014. Rudy, c'est l'un des plus grands mystères de l'aviation civile moderne.
Oui, l'avion disparaît le 8 mars 2014, peu après le décollage. Il a cessé de transmettre sa position. Il est resté introuvable malgré des recherches intensives, mais intensives sur un petit espace dans l'immensité de l'océan Indien. Il avait 239 personnes à bord. L'avion, il a semblé continuer son vol normalement avant de commencer à perdre l'altitude et de s'abîmer dans l'océan, loin de toute trajectoire prévue initialement. Alors il y a plusieurs théories. Ce serait un acte délibéré de la part des pilotes, donc avec une intentionnalité humaine, un accident lié à une défaillance technique majeure, ou bien une perte de puissance électrique inexpliquée qui aurait affecté les systèmes de navigation et aussi de communication, raison pour laquelle on a rien. Ils font pas d'alerte, etc. On a retrouvé des débris de l'avion sur des plages de l'océan Indien qui confirment le crash en mer, mais on ne sait pas le lieu précis du crash, on n'en connaît pas non plus la cause. Et donc, évidemment, tous les ingrédients étaient réunis pour faire naître des explications de type conspirationniste, comme celle selon laquelle l'avion aurait été, par exemple, détourné par des pirates de l'air et il aurait atterri intact sur une base quelque part. Voilà, en tout cas, toutes les spéculations sont possibles.
Et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé et c'est aussi ça qui génère des théories, Tristan.
Bah oui, là, on est vraiment dans un vide informationnel qui appelle à être comblé et qui va donc susciter un foisonnement de théories de toutes sortes. Quand on ne sait pas, quand il y a un doute, bah, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les spéculations. Toutes les spéculations ne sont pas forcément complotistes, mais évidemment, c'est à l'intérieur de ces spéculations que viennent s'engouffrer de nombreuses théories complotistes. On l'a entendu dans la séquence sur TikTok, la vidéo générée par IA de tout à l'heure, il y a des mentions d'OVNI. L'avion a été abducté par les ovnis. Donc on voit que même en 2023, et sur TikTok, sur un réseau populaire chez les jeunes, il y a encore cette effervescence complotiste qui garde un socle, si on veut, de visibilité de nombreuses années après.
Ce que tu dis nous renseigne aussi sur la fonction des croyances en général, des théories du complot en particulier, c'est-à-dire qu'elles viennent résorber l'incertitude. Or, l'incertitude, c'est très inconfortable, c'est une charge mentale. Donc ces théories du complot, elles viennent soulager d'une certaine manière une charge mentale. C'est compliqué de ne pas savoir, surtout quand on est par exemple une famille de victimes et qu'on a été directement touché par ce qui s'est passé.
Les disparitions d'avions inexpliquées, on peut faire le lien avec le triangle des Bermudes. Ce triangle imaginaire situé entre Miami, les Bermudes et Puerto Rico à proximité des Caraïbes. Plus d'une centaine de navires et d'avions se sont volatilisés dans cette zone et forcément il y a plein de références dans la culture populaire, Rudy.
Oui, alors là la fiction en est remplie, mais il y a un point que je voulais signaler. On a Jean-Claude Bourg, ex-présentateur de télévision, mais surtout ufologue à ses heures, qui a une empreinte complotiste très forte aussi en ligne, qui est par exemple l'auteur d'un ouvrage sur le triangle des Bermudes. Alors, rapidement, l'explication rationnelle, on la connaît, c'est une zone, ce triangle des Bermudes, qui cumule des caractéristiques rares, signalées par un article de National Geographic. C'est l'un des deux seuls endroits sur Terre, par exemple, où le nord géographique et le nord magnétique s'alignent, ce qui rend compliqué la lecture des boussoles, donc ça peut perturber des systèmes de navigation. On sait que c'est un endroit qui abrite des zones marines parmi les plus profondes du monde, donc compliqué de retrouver d'éventuelles épaves. C'est une région qui possède de nombreux récifs avec des courants très violents et puis une météo très capricieuse, très dangereuse aussi, liée au passage du Gulf Stream. Donc là aussi un cocktail d'éléments qui permettent de comprendre que c'est un lieu pas très sûr, ni pour les bateaux, ni pour les avions.
Dans les cultures populaires, évidemment, on a de combien de documentaires sur le triangle des Bermudes, de fiction, notamment. Donc on voit qu'il y a quand même tout l'imaginaire est travaillé, disons, par ce mystère. Et évidemment, les disparitions d'avions, dès que ça touche les triangles des Bermudes, ça excite évidemment cet imaginaire-là. Mais dans la culture populaire, on peut aussi remonter plus loin. Il y a des épisodes assez que je trouve assez intéressants, assez marrants, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. On le sait peut-être peu, mais il y avait une sorte de légende autour de ce qu'on appelait les Gremlins. gremlins, des créatures mystérieuses qui attaquaient les bombardiers et qui mangeaient leurs moteurs et qui expliquaient quelque part leur disparition. Et ça a été d'ailleurs l'objet d'un film récent, d'une fiction qui s'appelle Shadows in the Cloud en 2021. Mais toujours autour de ces gremlins là qui faisaient disparaître ces fameux avions, on a un épisode de la quatrième dimension qui a été diffusé en 1963, titré Cauchemar à 20 000 pieds avec William Shatner. Et je ne sais pas si on a cette image en tête, mais on voit une sorte de monstre velu lorsqu'il y a un éclair sur l'aile d'un avion de ligne. Bref, on voit que tout cet imaginaire est très présent dans les cultures populaires. Dès que ça touche aux avions, on a toute une fantasmagorie qui vient s'y greffer.
Et pour conclure cet épisode, Tristan, pourquoi les accidents, les disparitions d'avions tendent à susciter des théories complotistes ?
Pour plusieurs raisons, je pense. D'abord, il y a la visibilité et la couverture médiatique. Ces accidents aériens sont plutôt rares par rapport, par exemple, aux accidents ferroviaires. Et donc, il y a une empreinte beaucoup plus forte dans la couverture médiatique. On a aussi, évidemment, disons, l'impact émotionnel lié au crash d'avion. On peut être phobique, comme moi, de l'avion. Et donc, dès qu'un avion s'écrase, évidemment, je suis beaucoup plus, disons, émotionnellement pris par ces différents drames.
Et puis, il y a rarement des survivants.
Et puis, évidemment, il y a rarement des survivants. Donc, le taux, évidemment, de létalité, entre guillemets, des crashs d'avions est plus spectaculaire, évidemment, qu'un accident ferroviaire. Et puis, il y a le fait que dans les avions, il y a souvent de nombreuses nationalités. Et donc, ça devient un moment médiatique couvert à l'international. Donc, il y a une empreinte médiatique beaucoup plus forte. Et puis, dernière chose, on a évidemment le délai de l'enquête, qui est forcément plus long, plus complexe en général, quand on arrive à retrouver, effectivement, les épaves. Ce temps-là, évidemment, est un vide, un creux dans lequel vient s'incruster et vient se propulser de nombreuses théories complotistes.
Merci Tristan Mendès-France.
Merci à tous.
Merci Rudy Rechtat.
Merci Pauline.
Et merci à Raphaël Rousseau à la technique. C'est la fin de ce 65e épisode de Complorama. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Si vous aimez Complorama, je vous conseille un autre rendez-vous de France Info qui lutte contre la désinformation. C'est le Vrai ou Faux, un rendez-vous quotidien à retrouver sur votre appli de podcast préféré et sur franceinfo.fr.